Bonjour à toutes et à tous. Nous recevons aujourd'hui Philippe Reynaud, qui est philosophe et politiste, l'auteur notamment d'un dictionnaire de philosophie politique qui fait désormais référence avec Stéphane Rials, d'un livre également classique sur Max Weber qui s'intitule Max Weber et les dilemmes de la raison moderne, que je vous conseille vivement. Et de l'ouvrage pour lequel nous l'avons invité aujourd'hui, L'extrême gauche plurielle, entre démocratie radicale et révolution, qui était sorti en 2006 et qui vient de paraître en poche aux éditions Perrin, avec une nouvelle postface. Depuis lors, vous avez publié deux autres ouvrages, un sur le juge et le citoyen, donc sur la place du droit.
Je suis philosophe.
Pardon ? Le juge et le philosophe, pardon, oui. Pas le juge et le citoyen, le juge et le philosophe. C'est un lapsus, oui. Et puis, plus récemment encore, donc, Trois révolutions de la liberté, dans lequel vous vous intéressez au libéralisme dans sa version anglaise, américaine et française, que vous interrogez successivement, et puis vous essayez d'établir des comparaisons. Alors, nous vous recevons aujourd'hui pour parler de l'extrême-gauche. Je rappelle que la dernière conférence avec Ernst Hillbrandt a été consacrée donc, au versant réformiste du socialisme, dont Marcel Gauchet nous avait dit qu'il était également en crise dans son versant révolutionnaire. C'est de ce versant-là dont on va parler aujourd'hui. Et l'intérêt du travail de Philippe Reynaud, c'est précisément qu'à la fois il y a un souci, je veux dire, de terrain, d'essayer de décrire quelle est la forme très variable et plurielle que prend aujourd'hui cette extrême gauche, mais aussi un souci davantage philosophique au niveau des idées, de prendre au sérieux certains des principaux théoriciens de cette pensée radicale, afin d'essayer d'expliciter les composantes de leur discours, un discours qui, même s'il est limité, influence le débat politique général. Voilà, je vais lui laisser la parole.
Bien, merci beaucoup de cette présentation et merci beaucoup surtout de votre invitation. Que je fais avec plaisir d'abord parce que je suis toujours très heureux de venir à Bruxelles, qui est une ville que j'aime beaucoup et où je ne viens pas assez souvent, et d'autre part parce que le programme de votre séminaire m'a paru des plus intéressants et que d'autre part nous avons des amis communs, notamment Jean-Pierre Le Goff, je crois, qui fait un travail à Paris assez comparable à celui que vous faites à Bruxelles. Donc, j'ai accepté avec plaisir cette invitation pour parler en effet de ce sujet que j'ai traité dans un livre qui a maintenant un peu plus de 3 ans. Peut-être certains d'entre vous l'ont-ils lu. Ils voudront bien excuser dans ce cas le fait que je suis parfois conduit à me répéter. Parce que je n'ai pas 50 idées sur le sujet et que, d'autre part, les choses n'ont pas totalement changé depuis que j'ai écrit ce livre. Mais, disons, peut-être ce que je vais essayer de faire, c'est d'abord partir de la question que je m'étais posée quand j'ai écrit ce livre, qui, au-delà d'une conjoncture politique particulière qui était les débats qui commençaient à s'organiser dans la perspective de l'élection présidentielle française, ce qui m'intéressait, c'était le fait que, une fois de plus, la politique française semblait montrer que le caractère à la fois rémanent, nécessaire et illusoire de l'idée qui est tout simplement l'idée de la fin de l'histoire. comme vous vous en souvenez sans doute, au moment de la chute du mur de Berlin, qui pour les gens de ma génération a lieu hier, mais qui pour les plus jeunes d'entre vous est un événement de l'histoire universelle. Au moment de la chute du mur de Berlin, un auteur américain qui est d'ailleurs un type tout à fait talentueux, Francis Fukuyama, avait publié un article qui est devenu par la suite un livre qui s'intitulait La fin de l'histoire et le dernier homme, et qui ressuscitait à l'occasion du mur de Berlin une thèse dont l'origine se trouve dans comme vous le savez, dans certains textes de Hegel, et qui a été reprise au XXe siècle de manière assez brillante, avec d'ailleurs des versions distinctes, enfin successives, par Alexandre Kojève. Cette idée, c'est qu'à un certain moment de l'histoire universelle, certes, il peut arriver qu'il continue à se produire des événements, que ceux-ci soient dramatiques, qu'il y ait des luttes et même peut-être des guerres, mais l'histoire humaine est terminée en ce sens que on peut considérer que les formules politiques dans lesquelles l'humanité peut se reconnaître sont épuisées, parce qu'est advenu et s'est imposé un régime qui, même s'il laisse les gens de fait insatisfaits, est capable néanmoins de satisfaire l'essentiel des aspirations légitimes l'humanité. C'était, comme vous le savez, l'idée qu'avait eue Hegel en 1807. On raconte il semble que c'est en voyant Napoléon passer à cheval sous sa fenêtre à Iéna qu'il a conçu cette idée, et depuis les Hegeliens de temps en temps s'accordent pour dire que c'est vrai que l'histoire s'est terminée, mais ont parfois des désaccords sur la date. Hegel pensait que c'était 1807, Kojève a pensé d'abord que c'était à l'époque de Staline, ensuite il a trouvé que c'était dans la prospérité américaine des années 50, et finalement il a trouvé que l'image la plus intéressante de la fin de l'histoire, c'était le Japon la fin des années 60, le Japon en voie de modernisation, dans lequel l'humanité, dans ce qu'elle avait d'intéressant, survivait sous la figure du snobisme. Et Fukuyama, lui, disait avec de bons arguments que c'était la chute du mur de Berlin. Alors, la fin de l'histoire, bon, c'est une thèse qu'on peut résumer à la manière de Maurice Thorez. Maurice Thorez disait qu'il faut savoir terminer une grève lorsque les principales revendications ont été satisfaites. La fin de l'histoire, c'est ça. Il faut savoir terminer l'histoire lorsque les principales revendications ont été satisfaites. Et nous dit Fukuyama, le véritable moment, c'est la chute du mur de Berlin, parce que la chute du mur de Berlin voit la disparition de la deuxième grande alternative à la démocratie libérale, après l'échec du fascisme, c'est l'échec du communisme, qui fait qu'il n'y a pas de projet cohérent qui pourrait présenter une alternative séduisante et mobilisatrice à la société telle qu'elle est. C'est une thèse qui est plus sérieuse qu'il n'y paraît, et ce que je voudrais dire pour commencer, c'est que c'est à la fois une illusion, mais c'est une illusion nécessaire. C'est une illusion nécessaire parce que, d'une certaine manière, ce qu'on voit apparaître périodiquement dans les sociétés modernes depuis le XIXe siècle, souvent chez des très bons esprits, c'est l'idée que la société, ou du moins les sociétés qu'on appellerait les plus développées, sont arrivées à un stade tel qu'on ne voit rien d'essentiel qui puisse apparaître par la suite, tout simplement parce que les droits de l'individu sont devenus conciliables avec la citoyenneté et que chacun peut au moins en droit trouver une place dans la société moderne. C'est une illusion nécessaire parce que, effectivement, périodiquement, on a l'impression que toutes les grandes revendications qui ont animé les mouvements précédents ont été accomplies et qu'il n'y a rien au-delà. C'était l'illusion commune à Guizot et à Hegel qui pensaient qu'une fois que la Révolution française, dans ce qu'elle avait de raisonnable, avait gagné, c'est-à-dire une fois que, disons, l'égalité civile juridique était adoptée dans les sociétés modernes, ma foi, tout le reste était anecdotique et on n'avait pas de raison d'attendre autre chose de majeur. Alors, c'est donc une illusion d'une certaine manière nécessaire, mais c'est néanmoins une illusion. Et pourquoi ? Pour deux raisons. La première raison tient, je crois, à la nature du régime représentatif, qui est la forme moderne de la démocratie, qui est un régime qui a une forte composante aristocratique ou oligarchique, et qui, d'une certaine manière, produit chez les citoyens une espèce de situation, on pourrait dire, de double bind, qui est vraiment inscrite dans sa nature. La démocratie représentative, parce qu'elle est représentative, suppose que les individus se concentrent, c'est ce que Constant appelait la liberté des modernes, sur leur bonheur privé, et ce qui suppose que d'une certaine manière, la réalité du pouvoir, pour l'essentiel des choses, n'est pas le principal problème des citoyens. Mais d'un autre côté, la démocratie représentative, parce qu'elle est démocratique, a besoin de citoyens et a besoin d'une certaine mobilisation civique et d'un intérêt permanent pour la politique. Alors si bien je crois qu'il y a au cœur de nos régimes une insatisfaction permanente qui ne sera jamais comblée, qui fait que d'un côté ces régimes nous encouragent à chercher notre bonheur dans la vie privée, et que d'autre part, il nous invite aussi à nous voir comme des citoyens soucieux du bien public, intéressés par les grandes questions et par les débats divers. C'est pour ça d'ailleurs que périodiquement, même dans des forces politiques relativement modérées, on voit renaître l'idée qu'il faut dépasser la représentation parce qu'elle est arbitraire, qu'il faut faire de la démocratie participative ou dépasser l'élection pour avoir une représentation réelle de la société. On voit bien que la démocratie, d'une certaine manière, c'est un moyen de réconcilier le citoyen et le bourgeois, pour parler comme Hegel, mais c'est un régime qui entretient toujours la nostalgie d'une autre démocratie qui serait la seule vraie démocratie. Ça, c'est une raison donc, qui tient à la nature de la représentation. La deuxième raison, elle tient à la nature de ce qu'on pourrait de la démocratie moderne au sens, disons, de Tocqueville, c'est-à-dire de ce que Tocqueville appelait l'égalité des conditions, sur laquelle, bon, je pense que vous savez tous ce qu'ont écrit d'excellents auteurs comme Marcel Gauchet, comme Manon et comme quelques autres, qui montrent que l'idée profonde de Tocqueville, c'est que finalement la démocratie moderne se définit non pas par le fait qu'elle réalise une égalité, ou pas simplement pour le fait qu'elle réalise davantage d'égalité politique, économique, sociale que les sociétés antérieures, mais par le fait qu'elle étend la revendication égalitaire à toutes les sphères de l'action humaine, et même d'une certaine manière au-delà, on commence à parler des droits des animaux, même des droits de la nature, et qu'elle fait apparaître finalement l'égalité comme une promesse qui, parce qu'elle est indéfinie, n'est jamais totalement tenue. Alors c'est cela qui me conduit à penser que, quel que soit l'état de notre société, il y a toujours deux possibilités permanentes de critique radicale qui se différencient par la manière dont elles interprètent et dont elles contestent la promesse égalitaire de la société moderne. il y a une critique qui, constatant que l'égalité n'est jamais totalement réalisée, va consister finalement à refuser la promesse démocratique et refuser la démocratie en la dénonçant comme un mensonge ou comme une mystification de principe et en invoquant du coup la grandeur disparue des sociétés pré-égalitaires. C'est la base permanente des critiques, disons, pour simplifier, de droite ou d'extrême droite, dont la forme la plus radicale a été donnée par le fascisme dans les années 30. Dans les années 20, dans les années 30. Il y a d'un autre côté la possibilité permanente d'une autre critique, pour simplifier, d'une critique d'extrême gauche, qui considère également qu'il y a quelque chose de mensonger dans la société libérale et dans sa promesse égalitaire, mais dans ce cas qui demande non pas l'abandon, mais au contraire la réalisation de la promesse égalitaire du régime moderne, réalisation simplement dont on va considérer qu'elle ne peut être faite qu'au prix de l'abandon du formalisme libéral, que de l'abandon, par exemple, du droit bourgeois ou des libertés formelles, ou au moins d'un certain nombre d'une partie de l'héritage libéral. Et c'est là la base permanente d'une critique qu'on peut appeler d'une critique d'extrême gauche, dont je pense qu'elle ne disparaîtra jamais à l'intérieur des démocraties contemporaines. Ça, c'est donc la problématique générale dont j'étais parti, avec simplement une particularité, deux particularités, l'une de la période et l'autre du pays dans lequel je suis citoyen. Particularité de la période, c'est précisément que nous étions dans la période qui avait commencé avec la chute du communisme soviétique et où la reconstitution d'une critique radicale de la société bourgeoise du capitalisme paraissait poser un certain nombre de difficultés. Et l'autre particularité, c'est la particularité de la France, sur laquelle on reviendra, dans laquelle les courants radicaux, surtout de gauche, ont une vitalité particulière. Alors, c'était donc la problématique dont j'étais parti, qu'il faut, je crois, aujourd'hui modifier ou élargir, ou les deux à la fois, en tenant compte du fait que la période ouverte par la chute du mur de Berlin est probablement terminée, en ce sens que, même s'il n'est pas certain qu'on voit renaître une utopie plausible aussi prégnante que l'a été l'idée communiste à un certain moment, le type d'euphorie, disons, ou de croyance diffuse dans les vertus de la démocratie et du capitalisme qui pouvait exister après 89 est probablement derrière nous. Alors, ce que je voudrais donc faire aujourd'hui, c'est d'abord présenter quelques hypothèses sur ce que j'ai appelé dans le texte qui est à l'origine de mon livre les nouvelles radicalités, c'est-à-dire les nouveaux courants de la gauche radicale dans le monde européen et notamment français, et dans une deuxième partie plus brève, pour introduire la discussion, si vous le voulez bien, je me poserai la question de savoir si on va vers un retour de la révolution ou quelque chose de ce genre-là. Alors je vous rassure, je vous déçois tout de suite, à mon avis non, mais enfin la question mérite quand même d'être posée. Après tout, si vous voulez, on pourrait penser qu'à une époque où le président de la République française reprend une rhétorique antilibérale tout à fait remarquable, qui rappelle parfois celle d'Olivier Besancenot, on peut se demander si le spectre du communisme va réapparaître ou pas. La question mérite d'être posée et la réponse est, même si à mon sens elle est négative, est assez complexe. Alors partons d'abord des nouvelles radicalités telles qu'elles se sont formées en Europe, en partie en Italie, avec des gens comme Negri, mais me semble-t-il surtout en France, où la question à poser, d'abord, c'est celle du paradoxe de la survie et même de la vitalité d'une extrême gauche dont on aurait pu penser, et dont beaucoup avaient pensé, que la chute de l'Union soviétique allait lui porter un coup fatal. Alors, bien entendu, il y a toujours eu dans l'extrême gauche européenne des gens qui considéraient que ça ne les concernait pas, cette affaire, puisqu'ils avaient toujours été critiques à l'égard de l'Union soviétique. C'était le cas dans une certaine mesure pour les maoïstes, mais ceux-ci, il faut le rappeler, dénonçaient le révisionnisme de l'Union soviétique, après tout à partir de la mort de Staline, ce qui supposait qu'avant c'était pas si mal, ce qui a toujours un peu grevé leur discours et a limité leur pouvoir de persuasion. C'était sans doute plus plausible dans les courants trotskistes, où ce qu'on a toujours dit, c'est qu'on défendait le communisme contre sa perversion stalinienne. Alors, pourquoi est-ce que ces courants ont été quand même affectés par la chute du mur et par l'effondrement du communisme soviétique? C'est parce que, d'une certaine manière, ces courants s'alimentaient quand même en partie à l'existence du communisme officiel. Ce qui a fait pendant très longtemps que, même chez les anti-staliniens, l'idée communiste était vivante, c'est qu'il existait quelque chose, comme un camp socialiste, qui était bien sûr défiguré, bureaucratique, révisionniste et tout ce que vous voulez, mais qui néanmoins donnait un sens à la critique générale du capitalisme, parce que ça montrait qu'il y avait, même si elle n'était pas satisfaisante pour l'instant, une autre société, notamment une autre économie possible, que l'économie de marché. C'est ce qui fait, par exemple, que Jean-Paul Sartre, dans un texte qu'il écrit après la révolution hongroise de 1956, où il prétend pourtant soutenir les Hongrois, se demande à un moment, mais est-ce que ce monstre sanglant qu'est l'Union soviétique, c'est le socialisme? Et dit, sans hésiter, je réponds oui. Je réponds oui. Pourquoi? Parce que jamais les dirigeants soviétiques n'ont abandonné l'appropriation collective des moyens de production, et ça montre qu'autre chose est possible que le capitalisme. De la même manière, l'existence de partis communistes puissants tendait à montrer que, même si les gauchistes considéraient que ces partis étaient devenus réformistes, ces partis se prétendaient révolutionnaires, disaient qu'il fallait lutter pour une autre société totalement différente de la société capitaliste, et leur existence montrait que, même si elle était dévoyée, l'idée de révolution conservait un certain crédit dans les masses. Alors de là, me semble-t-il, deux scénarios possibles après la chute de l'Union soviétique, qui sont celui qu'espéraient d'un côté disons, ce que l'extrême-gauche appellerait la politique officielle, c'est-à-dire en gros les conservateurs, les libéraux et la gauche réformiste, et celui qu'espéraient les franges les mieux organisées de l'extrême-gauche. Ce qu'espéraient les libéraux de toute espèce, y compris la gauche, c'était finalement que l'ensemble de la gauche se rallie à la démocratie libérale et que cela conduise éventuellement à une redéfinition du clivage entre la droite et la gauche, indépendamment de l'idée révolutionnaire. C'est ce que représentait en France, par exemple, le courant de la deuxième gauche a assumé de manière très, très claire cette position à l'époque où il avait des idées. L'autre position possible, c'était celle qu'on développait volontiers, par exemple, dans les organisations trotskistes, par exemple à la LCR, c'était que la chute du stalinisme allait en fait lever l'hypothèque que l'expérience soviétique faisait peser sur l'idée révolutionnaire et qu'elle allait redonner ses chances à un communisme authentique. Il y a quelqu'un qui est mort il y a quelques années et qui avait très bien exprimé ça dans une revue trotskiste c'est le regretté Jean-Marie Vincent, qui était un des bons théoriciens marxistes français, et qui disait, mais la chute du mur, ça n'est pas une mauvaise affaire, c'est une très bonne affaire, c'est quelque chose qui discréditait l'idée communiste, et nous allons nous porter, nous porterons que mieux de la disparition de ce régime. Alors, d'une certaine manière, on peut dire que l'évolution des idéologies en Europe, et notamment en France, pouvait permettre de plaider pour les deux causes. D'un côté, pour aller dans le sens des thèses des libéraux et des démocrates, disons, on a eu le déclin du Parti communiste, et à l'intérieur des partis socialistes, même du Parti socialiste français, l'adoption de programmes qui étaient de moins en moins en rupture avec le capitalisme, et qui prétendaient même, ne prétendaient même plus l'être. Mais de l'autre, on a vu renaître des organisations au discours antilibéral ou anticapitaliste assez structurées. Ces organisations ont pu mobiliser sinon des masses, du moins des militants et au-delà du cercle militant sur un certain nombre de causes. Et à certains moments, notamment en France, ils ont pu obtenir des résultats électoraux non négligeables, tout en n'ayant à nouveau une certaine autorité dans le débat politique ou dans le débat intellectuel. En France, disons, il y a toute une galaxie de la pensée radicale qui va au-delà des organisations d'extrême-gauche et qui comprend, me semble-t-il, un certain nombre de revues ou de missions. Bon, la revue la plus connue, c'est les Inrecruptibles, par exemple, qui représente assez bien, me semble-t-il, ce type de présence de théories radicales dans la sphère publique. Ce que j'ai voulu faire à partir de là, c'est montrer d'un côté comment les héritiers de la politique révolutionnaire se sont adaptés à la nouvelle conjoncture. Et d'un autre côté, c'est un petit peu schématique comme présentation, comment dans cette nouvelle conjoncture, les théories d'origine révolutionnaire se sont modifiées de telle manière qu'il n'est pas tout à fait certain qu'elles aient gardé leur caractère premier. C'est pour cela que le sous-titre de mon livre, c'était « De la révolution à la démocratie radicale », puisque la thèse que j'ai défendue et que je vais encore défendre aujourd'hui, c'est que, en fait, dans la plupart des cas, les théoriciens de l'extrême-gauche contemporaine, bon an mal an, sont obligés de faire un certain nombre de compromis assez mal avoués, mais néanmoins lisibles si on lit de près, qui montre qu'il y a bien quelque chose de mort dans l'ancien programme révolutionnaire. C'est-à-dire qu'en fait, même ceux qui essayent de se présenter comme des tenants de la révolution ne sont souvent que des représentants radicaux de tendances qui sont déjà présentes dans la démocratie contemporaine. C'est en tout cas la thèse que je défends et que je voudrais illustrer, si vous voulez bien, en prenant trois exemples très différents, trois exemples français qui sont ceux du philosophe officiel de l'ASR, aujourd'hui disparu, enfin récemment disparu, Daniel Ben Saïd, celui d'un philosophe d'origine marxiste et communiste, Étienne Balibar, qui aujourd'hui apparaît d'une certaine manière comme un militant des droits de l'homme, plus que comme un néo-communiste, et enfin celui du seul philosophe français qui, notable, qui se présente vraiment comme un défenseur intransigeant de l'hypothèse communiste dans ce qu'elle a de plus radical, j'ai nommé, bien entendu, Alain Badiou. Alors essayons de prendre, si vous voulez, ces trois exemples qui vont nous montrer comment dans l'idéologie contemporaine, je dirais, la démocratie est en train de travailler, y compris chez ses critiques les plus radicaux. Alors, prenons d'abord le cas de Ben Saïd. Ben Saïd était quelqu'un qui avait une formation philosophique classique. C'est quelqu'un qui a fait des études de philosophie, qui était un ancien élève de l'École normale supérieure de Saint-Cloud, donc formé dans une cagne française, à la manière française de faire l'histoire de la philosophie, ce qui consiste essentiellement à faire des explications de textes et des dissertations. Ce sont les deux mamelles de la philosophie française, qu'il avait sucé quand il était petit, et qui par ailleurs a été avec Alain Krivine et Henri Weber l'animateur d'une tendance de l'Union des étudiants communistes, d'étudiants du Parti communiste, qui a fini par quitter le Parti communiste pour rejoindre une organisation trotskiste qui est la principale en France, celle qui, il y a quelques mois encore, s'appelait la Ligue communiste révolutionnaire. Dans ce courant du trotskisme, la philosophie marxiste a toujours été revendiquée, mais sous une forme originale qui était supposée incompatible avec l'héritage stalinien, qui est la forme de ce qu'on appelait parfois dans mon jeune temps, et probablement dans le jeune temps d'un certain nombre d'entre vous, le marxisme occidental. Marxisme occidental, c'est pas le marxisme américain, c'est le marxisme allemand, non soviétique, celui notamment de Georg Lukács et de Karl Korsch, qui est marqué principalement par le refus de la dialectique de la nature, par une valorisation de l'héritage hegelien et de l'héritage de l'idéalisme allemand, qui a une certaine dimension tragique, et qui est anti-économiste. Ben Saïd part de ce marxisme-là et a construit une œuvre assez abondante. C'était quelqu'un qui écrivait énormément. Je ne sais pas comment il faisait pour écrire tant, parce que c'est qu'il n'arrêtait pas de publier des livres, à peu près en deux par an, qui sont des livres dans lesquels ce qu'il essaye de faire à chaque fois, c'est de montrer ce qu'on pourrait appeler l'actualité du marxisme et de l'idée révolutionnaire en essayant d'intégrer un certain nombre de données à la fois des sciences sociales et des débats politiques contemporains. L'idée étant à chaque fois de montrer que le marxisme est la méthode ou la doctrine qui permet de rendre compte de la manière la plus satisfaisante de tendances que les autres penseurs ou les autres auteurs ne comprennent que partiellement. Alors il y a dans cette construction, disons, un aspect philosophique, un aspect plus politique ou plus sciences sociales, c'est plutôt le deuxième qui nous intéressera ici. Alors sur l'aspect philosophique, vous trouverez ça notamment dans l'œuvre de Ben Saïd, dans l'ouvrage qui s'appelle « Le Marx l'intempestif », qui n'est pas ce qu'il a écrit de mieux, parce que c'est une tentative, comme on en voit périodiquement, pour montrer que Marx sait très bien parce que c'est pas ce qu'on croit. Vous croyez que Marx est un philosophe de l'histoire ? Pas du tout. Vous pensez que c'est un sociologue ? Encore moins. Vous pensez que c'est quelqu'un qui essaye de montrer que l'économie est déterminante en dernière instance ? Pas du tout. C'est un penseur de la volonté, c'est un penseur de la liberté, c'est un mystique secret, qui a des affinités profondes avec le judaïsme, etc., etc. Bref, c'est pas du tout ce que vous croyez. Mais pour finir, néanmoins, quand on voit ce à quoi ça aboutit quand même à des thèses marxistes tout à fait traditionnelles, c'est-à-dire par exemple que Le concept de justice est purement historique, il est immanent au rapport social, ce qui fait que les théories de la justice, enfin, son rôle, n'ont aucun intérêt. L'idée libérale de liberté est construite sur la négation de l'inégalité sociale, et donc elle contribue à dissimuler l'inégalité. Et finalement, l'essentiel, c'est le conflit et la lutte de classe. Les ouvrages politiques sont, je crois, plus intéressants, parce que ce qu'ils s'efforcent de montrer, c'est, avec des données renouvelées, c'est l'actualité d'une vision marxiste assez traditionnelle, selon laquelle le destin spontané ou l'évolution spontanée du capitalisme moderne conduit à la fois à faire naître des aspirations et d'autre part à faire naître des contradictions et de nouvelles formes d'oppression qui ne pourraient être dépassées que par la reprise de la politique révolutionnaire. Alors on a par exemple dans ces ouvrages, par exemple dans le Paris mélancolique, une analyse qui n'est pas bouleversante mais qui n'est pas non plus absurde de la mondialisation, qui montre que ce que fait la mondialisation, c'est montrer que les compromis politiques sur lesquels s'étaient construits les politiques réformistes, qui étaient des compromis politiques nationaux autour de l'État-nation, sont aujourd'hui périmés, qu'on est entré par le fait même du capitalisme dans une période de mondialisation cosmopolite, qu'en même temps le capitalisme réprime parce qu'il a besoin de contrôler l'immigration, de limiter la démocratie, etc. Et que d'une certaine manière, c'est le capitalisme lui-même qui produit la naissance d'une conception nouvelle de la citoyenneté qui aurait à la fois une dimension cosmopolite et une dimension sociale, là où les formes antérieures du libéralisme, enfin du réformisme, avaient privilégié finalement des compromis à la fois réformistes et nationaux. Alors, on pourrait donc penser que dans cette œuvre de Ben Saïd, on trouve déjà quelque chose comme une construction qui permettrait, sinon de convaincre tout le monde qu'il faut faire la révolution, du moins de comprendre que la révolution est possible et qu'elle est non pas simplement un vague idéal, mais une référence qui peut inspirer une politique effective destinée à s'incarner dans la réalité. Mais ce qui est justement intéressant, c'est que quand on lit de près les livres de Ben Saïd, par exemple le Paris mélancolique, on voit qu'à un certain moment, tout ça se retourne dans une position très différente, qui est simplement que dans le triste monde d'aujourd'hui, le triste monde de la mondialisation, il est indispensable de faire vivre l'espoir, d'invoquer l'espérance, de maintenir l'idée qu'un autre monde est possible, mais de la maintenir essentiellement sous une forme dont Ben Saïd nous dit qu'elle doit être sécularisée, elle ne doit plus être théologique, elle ne doit plus être religieuse. Et si la révolution n'est plus une idée religieuse, elle devient un horizon régulateur et même une idée régulatrice. Je ne veux pas m'engager, disons, dans une discussion technique de ce que Ben Saïd a retenu de l'époque où il étudiait l'idéalisme allemand et ses origines kantiennes et ses développements hegeliens, mais je ne peux pas imaginer une seconde que Ben Saïd ait ignoré que le propre de l'idée de la notion d'idée régulatrice, c'est précisément que c'est une idée dont la logique intime est parfaitement incompatible avec l'idée classique de révolution. Quand on parle d'une idée régulatrice, on parle d'un horizon, et le problème d'un horizon, c'est que plus on va vers l'horizon, plus l'horizon recule. Le problème d'une ligne dérégulatrice, c'est qu'elle définit une tâche infinie, une tâche toujours à reprendre, et c'est d'ailleurs précisément pour cela que dans l'histoire du socialisme, comme le savent sans doute beaucoup d'entre vous, les grands défenseurs du réformisme ont usé de manière privilégiée de la notion d'idée régulatrice. C'est le point commun entre Bernstein et Jaurès, par exemple, Bernstein en Allemagne et Jaurès en France, c'est de nous dire que le socialisme est une idée régulatrice pour écarter justement l'idée qu'il y aurait un moment, un instant privilégié, un moment radical dans lequel on passerait d'une société à une autre, un moment de rupture radicale qui est précisément ce que définit la révolution. La révolution, classiquement, c'est une transformation décisive qui est inscrite dans une durée assez brève, qui ensuite peut ouvrir un processus de longue durée tant qu'on voudra, mais alors que l'idée régulatrice, c'est un horizon indéfini. Alors bien évidemment, Ben Saïd ne s'est pas converti au réformisme, ça se serait su, et j'ai eu plusieurs débats avec lui où il a essayé de me rassurer sur ce point, mais non, je ne suis pas du tout devenu réformiste. Mais simplement, ce qu'il veut dire, c'est que même si la révolution n'est pas certaine, il faut maintenir l'idée de révolution parce qu'elle signifie que nous croyons qu'à un certain moment, je cite, le cercle vicieux du fétichisme et la ronde infernale de la marchandise peuvent être brisés. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Finalement, ça veut dire que la révolution, c'est une sorte de supplément d'âme, de point idéal auquel on se réfère pour donner un sens à des luttes diverses, mais il n'est plus certain que ce soit véritablement le but de l'entreprise politique des révolutionnaires. Alors on pourrait, si on prenait par exemple les analyses de Tony Negri en Italie et de son ami américain Hart, dans leur livre Empire par exemple, montrer qu'il y a, sous une forme plus savante qui tient au... Enfin, les intellectuels radicaux italiens ont un certain type de raffinement qui leur est propre. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà discuté avec des gens comme Negri ou Agamben, etc. Ils sont tous un peu sur le même modèle. C'est des gens avec des belles manières, une bonne éducation, qui savent bien le latin, qui ont fait beaucoup de droit romain. Qui cite les théologiens médiévaux avec abondance, etc. Et qui, par ailleurs, ont une idée qui est très, très forte chez Negri, c'est l'idée que le communisme, ça n'est pas une société différente pour laquelle on va se battre, c'est quelque chose qui est déjà là. Le communisme, c'est le mouvement réel. Alors, il y a déjà chez Marx des formules de ce genre, mais chez Negri, ces formules sont au premier plan, parce que ce qui est au premier plan, ce sont les capacités instituantes, le pouvoir constituant, qui est en fait un pouvoir déconstituant. C'est la capacité insurrectionnelle d'un certain nombre d'individus associés, mais qui font que finalement le communisme, c'est moins la société dont on vise l'avènement que la société qui est déjà là dans le mouvement lui-même. Si bien qu'il m'est arrivé, à propos de Negri, de dire, aussi paradoxal que ça paraisse, que c'est une forme de pensée révolutionnaire qui pourrait adopter, paradoxalement, la formule de Bernstein que je citais tout à l'heure. Bernstein, qui est le défenseur du révisionnisme contre l'orthodoxie marxiste, avait comme programme, comme vous le savez, la transformation du socialisme en simple mouvement démocratique, disait il faut que la social-démocratie reconnaisse ce qu'elle est, sache ce qu'elle est, c'est-à-dire un mouvement démocratique qui vise des réformes sociales et pas un mouvement qui vise une société radicalement autre. Et il résumait ça par la formule « le but final n'est rien, le mouvement est tout ». D'une certaine manière, Negri, qui est évidemment anti-réformiste, qui est pour la politique la plus radicale, nous dit lui aussi, d'une certaine façon, que le but final n'est rien, que c'est le mouvement qui est tout. C'est pour ça que le communisme est déjà à l'œuvre dans les nouvelles formes de production, chez un certain nombre d'acteurs d'Internet, etc. etc. Prenons maintenant, après ces deux personnes ou ces deux auteurs qui essayent de recomposer quelque chose à partir explicitement du marxisme, prenons à l'autre extrémité quelqu'un comme Étienne Balibar, qui est, comme vous le savez sans doute, au départ un philosophe marxiste, membre du Parti communiste, qui appartient au groupe des élèves de Louis Althusser à l'école normale supérieure dans les années 60, au début des années 60, et qui est un des co-auteurs de l'ouvrage « Lire le Capital », que, me semble-t-il, on lit aujourd'hui encore moins que le Capital, qui a... je ne dirais pas bercé, mais accompagné beaucoup d'heures et même de dizaines d'heures dans mon jeune temps. On lisait tous « Lire le Capital ». On y a passé beaucoup de temps et en plus Balibar a écrit, si je ne me trompe, le texte le plus long dans « Lire le Capital », qui est un texte sur la dialectique historique dans l'ouvrage de Marx. Donc Balibar commence comme althusserien. Donc, pour ceux qui se souviennent d'Althusser comme critique radical de l'humanisme, comme anti-humaniste théorique, il a, comme tous les althusseriens, des sympathies pour la Chine maoïste, mais il reste fidèle au Parti communiste parce que c'est le parti de la classe ouvrière. Et finalement, il quitte le Parti communiste en 1981 pour protester contre des comportements de certains élus communistes, notamment Robert Hue, qui était à l'époque maire de Montigny-lès-Cormeilles, dans le Val d'Oise, qu'il considère comme des dérapages racistes, et il va s'engager dans une autre politique qui conduit à quelque chose de très curieux, c'est que finalement, ce à quoi a abouti Balibar, tout en maintenant l'idée d'une politique radicale, c'est à ce qu'on pourrait appeler une autocritique du marxisme, orienté vers une forme nouvelle d'une politique des droits de l'homme. Alors, le contenu de cette politique, il est relativement simple, c'est probablement le noyau commun de toutes les radicalités françaises, c'est une défense systématique et combiné de deux types de revendications très différentes, qui sont d'un côté les revendications communes à un certain nombre de salariés, ou comme on disait autrefois, de travailleurs, pour défendre les résultats des années 60, défendre l'État social ou l'État de la Providence, contre les attaques libérales et tout ce qu'on voudrait défendre, donc les services publics, la sécurité sociale, la RATP, les régimes de retraite, etc. Et de l'autre, c'est la défense des droits des travailleurs immigrés, même des immigrés en général, centrée notamment autour des mobilisations pour les sans-papiers. Le tout se présentant dans un... discours qui est un discours de la désobéissance civile, dont les racines théoriques, les origines théoriques, ne se situent pas véritablement dans la tradition marxiste, mais évoquent pour tout un chacun qui a un peu de culture politique, plutôt la tradition américaine de David Thoreau, ou dans certains cas même l'héritage de Gandhi. Donc on voit qu'au moins dans les méthodes d'action, on est dans quelque chose qui n'est plus la révolution marxiste. Le but, d'ailleurs, c'est un but qui consiste à essayer d'imposer, d'un côté, le respect et de l'autre, la reconnaissance d'un certain nombre de droits qui sont pensés assez nettement et assez explicitement à partir d'une idée des droits de l'homme dont on dit qu'il faut la retravailler, mais absolument pas l'abandonner ou la nier. Balibar a développé ça dans plusieurs articles, dans plusieurs ouvrages. Le texte le plus intéressant, à mon avis, qu'il ait écrit, parce que c'est un beau texte philosophique qui a une portée au-delà de ses combats du moment, c'est un article de 96 qui s'appelle « Trois concepts de la politique, émancipation, transformation, civilité », qui a été publié d'abord dans les temps modernes, dans le numéro de mars-avril-mai 96, et qui est repris dans un livre dont le titre, à mon avis, a un peu vieilli, c'est « La crainte des masses ». La crainte des masses, politique et philosophie, avant et après Marx. Alors qu'est-ce que nous dit Balibar dans ce texte? Il nous dit qu'il y a trois formes de politique, de politique acceptable, de politique noble ou émancipatrice, ou disons, politique qui vont dans le sens de la liberté, qui sont, dit-il, l'émancipation, la transformation et la civilité. Et dont on voit bien que, si on les articule comme il le fait, le marxisme n'est plus qu'un moment, d'ailleurs dépassé, dans la reconstruction souhaitable de la pensée politique. La première figure, c'est la figure de l'émancipation. C'est celle qui, dit Balibar, affirme l'autonomie de la politique. C'est celle de l'émancipation, c'est-à-dire de la parfaite réciprocité entre l'égalité et la liberté. Ce que Balibar, dans un néologisme que, pour ma part, je n'aime pas beaucoup, appelle l'égal-liberté. L'égal-liberté devient l'égal-liberté. Et qui correspond simplement à l'idée du principe démocratique tel qu'on le trouve dans la cité athénienne, tel qu'on le trouve dans les révolutions bourgeoises, tel qu'on le trouve enfin dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. C'est-à-dire que le moment de l'émancipation, c'est très exactement ce que Marx critique comme illusion politique dans un de ses premiers textes majeurs, qui est la question juive, dans lequel, précisément, Marx propose une critique de la Révolution française et de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, où il dit c'est la politique de l'illusion politique, la politique qui pense que l'émancipation politique et l'égalité politique et la liberté politique sont la véritable émancipation, la véritable liberté. Que nous dit Balibar? Ce qu'il nous dit, c'est très différent de ce que disait Marx, c'est que certes il y a une limite à cette politique de l'émancipation qui est son abstraction, mais cela n'empêche pas qu'elle ouvre la voie à un processus infini de revendication dans lequel la part de la société qui était exclue de la citoyenneté va s'engager dans la lutte réelle pour des droits déjà déclarés, donc elle invite à aller au-delà d'elle-même. La deuxième figure, je passe rapidement, c'est celle de l'hétéronomie de la politique, c'est-à-dire celle qui nous dit que pour réaliser l'émancipation politique, il y a en fait des conditions non politiques, qui sont les conditions sociales, et là, ce qu'on retrouve, c'est l'héritage marxiste, c'est le fait que l'égal-liberté ne pourrait être réalisée que par une certaine négation qui va passer par la priorité du social sur la politique. Donc là, on a enfin quelque chose qui ressemble un peu au marxisme, mais qui est dépassé dans une troisième figure, figure de la civilité, qui nous montre que L'hétéronomie de la politique est elle-même hétéronome, c'est-à-dire en fait que pour qu'il y ait une inscription sociale de la liberté, pour qu'il y ait un état social, par exemple, pour qu'il y ait une sécurité sociale, c'est de ça qu'il s'agit, il faut qu'il y ait un travail d'éducation accompli sur les masses, qui est un travail d'imposition ou d'acquisition de la civilité, qui passe cette fois-ci par l'intégration, même sur un mode conflictuel, des couches populaires dans un système culturel où ils doivent faire reconnaître leur dignité. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on accepte, comme un moment de l'histoire légitime de la démocratie, tout le travail par lequel les classes populaires ont été intégrées dans ce que les Althusseriens autrefois appelaient les appareils idéologiques d'État, c'est-à-dire par exemple l'école, la justice, le système politique, qui leur permettent d'acquérir une culture qui est la culture bourgeoise au départ, ou la culture de la société bourgeoise, mais dont ils vont donner une interprétation nouvelle. Alors, je trouve ce texte très intéressant, et à beaucoup d'égards, je serai d'accord avec lui, même avec beaucoup de choses qui sont dites dans ce texte, mais ce qui m'intéresse ici, c'est pas simplement l'analyse philosophique de Bélibar qui est intéressante, c'est ce que ça signifie de trouver ça chez quelqu'un qui se voit ou que l'on voit comme le théoricien d'une alternative radicale à la société bourgeoise. Ben, ce qu'on voit bien, c'est que c'est justement que ça n'est pas une alternative radicale à la société bourgeoise, puisque si vous prenez les trois moments, le premier moment demande qu'on réactualise ce qui est au cœur de la politique bourgeoise, c'est-à-dire le contenu des révolutions libérales et de la naissance de la démocratie. Le deuxième moment demande qu'on entretienne ce qui est le fruit de toutes les transformations des sociétés démocratiques au XXe siècle, c'est-à-dire essentiellement la formation de l'État social comme complément des libertés politiques. Et le troisième moment est constitué par l'idée que tout cela suppose qu'on accueille une partie importante de l'héritage étatique, à la fois dans ses appareils culturels et dans son fonctionnement juridique. C'est pour ça, par exemple, que dans ses textes sur l'Europe, donc il a été un Européen militant, maintenant c'est un petit peu plus compliqué, il expliquait qu'il reprenait il paraphrasait une formule du jeune Hegel à propos de l'Allemagne. Dans la constitution de l'Allemagne, Hegel dit « il n'y a pas d'État en Allemagne », et c'est ça le problème, et Bélibar avant dit « il n'y a pas d'État européen », c'est bien ça le problème. Donc il ne s'agit pas d'aller au-delà de la société ou de l'État, mais d'une certaine manière d'accomplir leur programme. Alors qu'est-ce qui fait néanmoins que cette politique peut être présentée comme radicale, c'est-à-dire qu'elle satisfait des logiques militantes qui vont au-delà du consensus ordinaire des démocraties contemporaines? Ben, c'est tout simplement qu'elle est essentiellement dirigée contre une cible politique qui n'est plus tellement le capitalisme que le nationalisme, et qu'elle s'organise autour, disons, de la démobilisation antiraciste des années 80 et 90, pour faire de la défense des étrangers, de l'immigration, de des sans-papiers, etc., le cœur de la politique contemporaine. Il y a un style de contestation radicale du consensus, ou du prétendu consensus d'aujourd'hui, qui est revendiqué comme une posture d'opposition, posture de résistance, de désobéissance passive, etc., mais dans un contenu, finalement, qui consiste à dire que ce qu'il faut faire, c'est que la société bourgeoise soit encore plus inclusive qu'elle ne l'a été jusqu'à nos jours. Ça n'est pas le programme d'une société radicalement autre, c'est simplement la demande explicite que cette société soit fidèle à ce qui est supposé être ses idéaux. Prenons enfin, pour terminer ce bref panorama, quelques mots sur, parce que je vais y revenir dans un instant, sur le seul personnage finalement qui est véritablement défendu, me semble-t-il, l'idée d'une vraie rupture absolue avec la société telle qu'elle est, avec la politique telle que nous la connaissons. Cet auteur, ou ce militant, c'est le philosophe Alain Badiou, qui connaît une gloire importante depuis quelques années, qui s'est accélérée grâce à l'élection de Nicolas Sarkozy en France, parce qu'il a réussi à apparaître. C'est Geoffrin qui a dit qu'il fallait parler de Badiou parce que c'est le seul opposant à Sarkozy. Enfin, ça me paraît exagéré, de toute manière, depuis les dernières élections régionales, on en parlera sans doute moins, parce qu'il y a quelques candidats à l'opposition. Mais il est devenu quelqu'un de considérable dans le débat français et dans le débat étranger, puisque c'est un auteur important aux États-Unis, ce qui est la condition indispensable pour exister aujourd'hui, dont, sans aucun doute, il est au moins au point de départ différent de ses concurrents, parce que c'est le seul qui, comme il me l'a dit un jour dans un débat que nous avions il y a quelques années, auquel vous aviez assisté, ce qu'il faut, c'est avoir le courage de n'être pas démocrate. C'est le principal mérite de Badiou, c'est que jusqu'à une date récente, c'était le seul adversaire officiel de la démocratie en France. Et là, en effet, qui disait pas qu'il fallait se battre pour une autre démocratie, mais que le problème, c'était bel et bien la démocratie. Ce qu'il a développé dans une œuvre philosophique très abondante, qui contient d'ailleurs un certain nombre de grands talents, et il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce qu'il écrit. Mais pour ce qu'il y a de politique dans ce qu'il écrit, en effet, la thèse la plus constante, c'est une thèse marxiste tout à fait standardisée d'ailleurs et traditionnelle, c'est qu'il y a une parfaite réciprocité entre le capitalisme et la démocratie parlementaire, qui fait que l'idée que la politique émancipatoire pourrait être le prolongement de la démocratie, est en fait la première illusion dont il faut se défaire. Alors, je cite par exemple, ça c'est dans le petit manuel d'inesthétique, mais il y a des textes comme ça un petit peu partout, un texte qui est assez révélateur, qui comme vous allez voir est écrit à l'époque où l'époque de la cohabitation entre Chirac et Jospin. Certes, l'organisation financière et technique de la science est accompagnée par la démocratie moderne. Mais qu'est-ce que la démocratie moderne? C'est uniquement ceci. Personne n'est obligé d'aimer un maître. Il n'est pas obligatoire, par exemple, que j'aime Chirac ou Jospin. En vérité, personne ne les aime. Tout le monde les moque et les brocarde publiquement. C'est ça, la démocratie. Mais d'un autre côté, je dois obéir absolument à l'organisation capitaliste de la science. Il n'y a qu'une seule politique, une politique unique. D'un autre côté, partout où on rejette cette modernité scientifique, capitaliste et démocratique, alors il faut qu'il y ait un maître et qu'il soit obligatoire de l'aimer. Et si on ne l'aimait pas, si on n'aimait pas Staline, par exemple, il y avait la terreur pour vous rappeler l'obligation de cet amour. Donc c'est un auteur intéressant parce qu'il est assez crâne pour dire que la démocratie c'est vraiment moche et que quand même le communisme dans ces périodes un peu énergiques sous Staline et sous Mao Tse-tung, c'était vraiment une alternative à la société démocratique dont nous vivons les inconvénients tous les jours. Badiou a donc réellement construit une œuvre qui est destinée à illustrer cette thèse et dont le livre le plus réussi sur le plan de l'exposé de sa vision du monde politique, c'est le livre qui s'intitule Le siècle, qui est une, pourrait-on dire, une histoire critique du XXe siècle, une réévaluation critique du XXe siècle, qui essaye de montrer pourquoi ce siècle que les libéraux considèrent, paraît-il, comme le siècle des totalitarismes, a été au contraire celui des pensées les plus intéressantes, les plus audacieuses, etc., à l'intérieur desquelles il faut faire une place particulière pour l'ensemble de l'héritage communiste, notamment pour la révolution culturelle chinoise, dont il nous dit, bien sûr, je n'ignore pas qu'elle a fait des dizaines de milliers de morts, notamment chez les intellectuels, mais enfin, ça n'empêche pas que ça avait du bon, et qui débouche d'ailleurs sur une réconciliation intéressante entre deux philosophes qu'on a longtemps considérés comme adversaires, c'est-à-dire Michel Foucault et Jean-Paul Sartre. L'un a été humaniste et l'autre anti-humaniste, mais Foucault avait le mérite de plaider pour la mort de l'homme et Sartre le mérite, dans la critique de la raison dialectique, de montrer que le chemin de la liberté passait par la terreur, ce qui était quand même le principal mérite de ce philosophe. Au passage, d'ailleurs, Badiou réhabilite un livre, à mon avis, heureusement oublié de Merleau-Ponty, qui est « Humanisme et terreur », qui est le livre où Merleau-Ponty prétend réfuter Koestler. Enfin, c'est un livre vraiment abominable. Mais où il dit c'est un livre intéressant et où il y a une idée intéressante, c'est le « et » de humanisme et terreur. Quand l'humanisme va avec la terreur, là, c'est quand même sympa. Donc, lui, on peut dire que c'est quelqu'un d'assez crâne pour ne pas être démocrate. Et pour défendre, du moins jusqu'à une date récente, une politique alternative qui est réellement différente de celle que nous connaissons. Alors maintenant, essayons. Essayons d'abord, pour conclure cette première partie, de voir un peu qu'est-ce qui pouvait sortir de tout ça ou qu'est-ce qui pouvait accompagner tout ça comme programme, sinon comme programme de gouvernement, du moins comme programme de mobilisation politique. On pouvait jouer essentiellement, je crois, sur quatre registres, avec à chaque fois des avantages et des inconvénients. Le premier, c'est le registre des mœurs, dans lequel, bien entendu, quel que soit l'état d'avancée de la société libérale, il y a toujours un certain nombre de limites qui sont opposées au désir, y compris d'ailleurs celles que le désir est conduit à opposer au désir autrui. Alors, on a donc, dans beaucoup de courants de l'extrême-gauche, parmi les tâches prioritaires, la défense d'un certain nombre de causes qui sont liées à la destruction nécessaire des mœurs traditionnelles. Donc on aura le Pax, le Sida, une fois que le Pax existe, l'homoparentalité, l'héritage du féminisme, etc. Tout cela fait des causes militantes plausibles. Donc simplement, le seul problème, c'est qu'il n'est pas certain qu'ils aient le moindre rapport avec la critique de la société bourgeoise et de la société capitaliste, laquelle semble, enfin, moi c'est l'impression que j'ai, s'accommoder très bien des transformations des mœurs depuis déjà plusieurs dizaines d'années. L'idée que le capitalisme est intrinsèquement patriarcal est une des choses les plus absurdes que je connaisse. Ça se saurait comme si c'était le cas, mais quand même, j'ai eu cette discussion à la fois avec Ben Saïd et avec, Clémentine Autain, qui m'ont expliqué combien le capitalisme était dur pour les femmes, etc., etc. Enfin, le monde peut être dur pour les femmes, enfin, il suffit d'appeler le monde capitaliste. Deuxième registre de lutte, c'est la critique de la mondialisation, qui s'est organisée par exemple autour de mouvements comme ATTAC, mais qui est également pas tout à fait suffisante, dans la mesure où la critique de la mondialisation passe à certains moments par des propositions qui ou bien se traduisent dans des langages traditionnels, par exemple de retour relatif au protectionnisme, ou bien dans des soutiens à des nations ou à des États particuliers, dans lesquels il y a peu de chances que la pureté de la lutte se maintienne entièrement. La troisième cause, c'est celle que privilégient les gens comme Balibar et d'ailleurs Badiou également, c'est les luttes autour de l'immigration, des sans-papiers, du statut des étrangers et par voie de conséquence la mise en scène de l'opposition au Front National en France, à la xénophobie, etc. etc. Tout cela, en effet, ce sont des bases de mobilisation fortes qui sont liées à des causes objectives dans la société moderne. Ce qui n'est simplement pas certain, c'est que ça puisse facilement être combiné avec la défense de l'héritage de l'État-providence et de la façon dont la majeure partie des couches populaires le conçoit ou l'interprète. Enfin, le quatrième point, c'est les questions internationales, dans lesquelles on a pu reconstituer assez bien, mais je passe rapidement sur ce sujet, autour de l'antimondialisation, quelque chose d'assez semblable à la vieille critique anti-impérialiste. Donc, voilà, ça me fait une première partie d'une heure et quart, il me reste un quart d'heure pour la deuxième, c'est tout à fait équilibré, et vous serez donc sensible à la performance de l'artiste. Non, en fait, la deuxième partie, c'est une conclusion, comme dirait Trotsky, c'est bilan et perspective. Alors maintenant, on va voir quelles sont les perspectives. Qu'est-ce qui est possible aujourd'hui? Disons, on était parti de 89, maintenant qu'est-ce qui est possible depuis 2008, c'est-à-dire depuis la grande crise économique qui réjouit un certain nombre d'observateurs qui voient enfin une nouvelle figure de la crise finale du capitalisme. Je trouve que la première chose qui manque dans les analyses de la crise économique, c'est, on dirait que c'est naturel, mais c'est une analyse de ce qui ne s'est pas produit. Ce qui ne s'est pas produit et que beaucoup attendaient, qui est précisément le retour massif d'une contestation radicale du capitalisme, qui aurait mis en danger la stabilisation du système en faisant renaître des aspirations révolutionnaires. Pendant un premier temps, bon, aux États-Unis, il n'y a absolument rien de ce genre, puisqu'après tout, si le président Obama a des difficultés, c'est pas parce qu'il va trop loin dans la critique, c'est pas parce qu'il va pas assez loin dans la critique de l'héritage dit néolibéral, mais parce que, à tort ou à raison, enfin sans doute à tort, une majeure partie de l'opinion américaine continue d'être sceptique sur les bienfaits de l'État-providence. Et en Europe, disons, dans un premier temps, comme vous le savez sans doute, si paradoxal que ça puisse paraître, les échos électoraux de la crise économique étaient plutôt favorables au parti de la droite modérée. Et il semble que ça ne soit plus le cas en France. C'est intéressant si on compare les élections européennes françaises et les élections régionales. Mais on ne peut pas dire pour autant que, nulle part, à ma connaissance, on voit réapparaître à partir de ce que certains présentent comme une crise générale du capitalisme, l'idée qu'il faudrait une rupture générale avec le capitalisme. C'est ça qui est très intéressant, je trouve, dans la période actuelle, c'est qu'on voit renaître un discours sur la crise du capitalisme ou sur les défauts du capitalisme quand on n'entendait plus que guerre il y a quelques années. On voit d'ailleurs de ce point de vue, pour parler le langage de ma jeunesse, le signifiant anticapitaliste se substitue au signifiant antilibéral. Il y a quelques années, plus personne n'était anticapitaliste, les gens étaient antilibéraux. Maintenant, on a un nouveau parti anticapitaliste et on a des gens qui parlent de la crise du capitalisme. Bon, le président Sarkozy a dit qu'il fallait le moraliser. À quoi d'autres disent que de toute manière, c'est un système qu'on ne peut pas moraliser, qu'il faut lutter contre. Mais finalement, l'impression dominante, c'est que on lutte contre le capitalisme, mais qu'on n'a pas vraiment l'intention de le détruire, parce qu'on ne voit toujours pas renaître, c'est du moins ce que je voudrais montrer, l'idée absolue d'une alternative radicale qui nous ferait complètement sortir du capitalisme, ce qui était bien le contenu de l'idée révolutionnaire et de l'idée de la révolution socialiste. Alors je vais vous proposer quelques exemples. Pour comprendre ça, autour de deux signifiants à la mode, qui sont le retour de Marx d'un côté et l'hypothèse du communisme de l'autre. Sur le retour de Marx, vous avez eu l'an dernier un très bon dossier du Nouvel Observateur, auquel je vous renvoie, qui a été d'ailleurs l'ultime occasion que j'ai eue de discuter avec le regretté Ben Saïd, qui a fait un papier où il persistait et signait. Tout ça s'accompagne aussi de toutes sortes de publications. Aujourd'hui, Marx revient dans la politique éditoriale, notamment porté par les presses universitaires de France, parce que Michel Prigent, qui n'est pas vraiment marxiste, est persuadé que c'est le marché porteur. Aujourd'hui, donc, il publie des introductions à Marx, des livres sur Marx, etc. Il y a un livre, par exemple, fait par Michael Lowy, deux livres publiés subitement au PUF, un dictionnaire du marxisme et un livre sur la théorie marxiste, fait par quatre auteurs, dans lesquels il y a notamment Emmanuel Renaud et Michael Lowy. Et il y a également un auteur qui est très prolixe sur ce point, qui est Christian Laval, qui a écrit un certain nombre de choses pour M. Dourdan, et qui vient de publier, par exemple, on peut prendre ça comme exemple emblématique, un petit livre très significatif qui s'appelle « Marx au combat ». « Marx au combat », on se dit qu'on va trouver là-dedans les armes de la critique qui nous permettront ensuite de passer à la critique des armes. Alors, lisons Christian Laval. Qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve d'abord un portrait très avantageux de Marx, penseur génial, militant héroïque, qui a su penser le capitalisme, mais qui n'a jamais voulu se réconcilier avec lui, qui a ruiné toutes les illusions réformistes en montrant que le capitalisme était incapable de surmonter ses contradictions, etc. Position héroïque qui, je cite, fait que Marx acheta la liberté de sa pensée au prix de l'exil, de la pauvreté, de la précarité, de la dépendance financière de ses amis. Bon, ce qui veut dire simplement que Marx a été entretenu toute sa vie par son ami Engels, qui était un généreux mécène capitaliste anglo-allemand, assez prospère. Enfin, qu'est-ce que vous voulez, c'est le mécénat. Effectivement, comme on n'avait pas encore construit le CNRS, etc., ces choses, Marx a... Enfin, dire qu'il a vécu dans la pauvreté, par exemple, c'est un peu exagéré. Qu'est-ce qu'il y a dans l'œuvre de Marx ? Il y a tout ce que nous aimions dans les années 70, c'est-à-dire le matérialisme, la théorie de la plus-value, qui est devenue la sur-valeur, parce que les traducteurs sont chics, en passant par la lutte de classe, que Marx emprunte aux historiens bourgeois pour la retourner contre la bourgeoisie, pour annoncer l'abolition finale de de toutes les classes grâce à l'avènement du communisme, qui est à la fois une nécessité historique et néanmoins le fruit d'une lutte consciente qui se déroule dans des conditions très largement contingentes. Ça, c'est le marxisme tel que nous l'avons tous connu et souvent aimé. Est-ce que ça doit inspirer, et pourquoi ça doit inspirer, les nouveaux critiques du capitalisme? Ben, c'est là que le livre de Laval est un peu problématique ou décevant. C'est que il fait sur l'œuvre de Marx un certain nombre de réserves qui, si on les prend au sérieux, font qu'on se demande un peu ça, à quoi ça sert. Donc, je donne un certain nombre de citations. Marx a cherché à tenir ensemble deux modèles de pensée, celui de la science moderne qui entend dégager des lois générales des phénomènes observés, et celui de la politique moderne qui présuppose que les hommes font eux-mêmes leur histoire. Cette tension entre les deux modèles traverse toute l'œuvre de Marx et constituera un problème constant pour le marxisme ultérieur. Tout cela est fort bien dit, c'est un truc qu'on connaît bien, tous les gens qui se sont intéressés à Marx à un moment ont buté sur ce problème, c'est que la révolution est inéluctable parce que elle est le fruit de l'évolution naturelle du capitalisme qui conduit à la concentration des capitaux, etc. Mais il faut quand même se lever le matin pour aller coller des affiches et vendre l'humanité. On n'a pas tellement avancé, si vous voulez, depuis cette époque-là. Qu'est-ce que c'est que le communisme? Le communisme, c'est la démocratie étendue au rapport de production ou la constitution démocratique généralisée. Alors, si c'est la démocratie étendue au rapport de production, comment est-ce qu'on étend au rapport de production? Pourquoi et qu'est-ce qui reste de la critique marxiste de la démocratie? On ne sait pas non plus. Est-ce qu'au moins Marx a donné une analyse convaincante des vices irrémédiables du capitalisme et de sa logique profonde? C'est pas tout à fait certain, puisque d'un côté, ce nom des citations existe, page 136, il est douteux que les prolétaires n'aient à perdre que leur chaîne, quand même, il y a la sécurité sociale, la prospérité, etc. Et puis surtout, Laval se souvient à la fin de son livre que la principale thèse de Marx, quand même, c'est que une formation sociale ne disparaît jamais que lorsqu'elle a cessé d'être favorable au développement des forces productives, et donc le problème du capitalisme, c'est qu'à un certain moment, il va entraver le développement des forces productives. Or, il n'est pas certain que la critique anticapitaliste d'aujourd'hui, ce soit ça qu'elle reproche au capitalisme. Laval le reconnaît très honnêtement. Pour Marx, le capitalisme était condamné parce qu'il ne pouvait qu'empêcher à un certain moment l'expansion des forces productives. S'il est aujourd'hui condamné, n'est-ce pas parce qu'il est incapable de s'auto-limiter? Effectivement, si vous voulez, si la rupture avec le capitalisme permet de faire une croissance chinoise deux fois plus forte, une croissance indienne trois fois plus forte, etc., et qu'en même temps, on a tout le programme écologique radical, etc., qui est au cœur de la critique du capitalisme contemporain, ça ne va pas être bien facile. Et conclusion, c'est que le mérite de la pensée de Marx, c'est que, enfin, si vous comprenez bien, si vous voulez, ce que dit Laval, c'est que, comme philosophe, c'est aporétique, comme analyse scientifique, c'est faux. Ouais, il faut quand même prendre les choses au sérieux. Conclusion, c'est que le nom de Marx est le synonyme d'une guerre contre un système d'exploitation qui n'est pas amendable dans son principe même. Donc le retour du marxisme, c'est le retour de l'idée de la critique radicale du capitalisme, et c'est donc le retour de l'hypothèse communiste, qui est, comme vous le savez sans doute, le titre du dernier petit livre d'Alain Badiou, de l'avant-dernier, parce qu'entre-temps il y a eu l'éloge de l'amour, avant-dernier livre d'Alain Badiou, qui est devenu un auteur moins ésotérique qu'autrefois, depuis qu'il est devenu un auteur politique commenté par Alain Duhamel et par les gens de cette sorte, avec son petit livre qui s'appelle « De quoi Sarkozy est-il le nom ?» qui a eu beaucoup de succès, qui est une sorte de poupée vaudou. C'est Quelqu'un avait mis en circulation une poupée vaudou à l'effigie de Sarkozy, que Sarkozy, contre laquelle Sarkozy a porté plainte parce que trouvait que c'était un peu criminel. C'est un petit peu la même chose sur le plan conceptuel. C'est un truc qui permet de planter des aiguilles contre le président de la République. L'hypothèse communiste, c'est un livre qui a été qui est sorti d'une conférence, un colloque qui s'est tenu à Londres il y a quelques mois, qui a été un social event très brillant, dans lequel sont apparus un certain nombre de philosophes essentiellement français et anglais, se sont réunis pour expliquer qu'il fallait redonner vie, à partir de la crise de 2008, à l'hypothèse communiste, qui n'a donc pas été totalement annulée par les épisodes précédents de l'histoire du communisme. Alors, quand il s'agit de Badiou, il y a toujours chez lui, c'est ce qui fait le charme de ce qu'il écrit, deux niveaux de langage un peu hétérogènes, mais qui coexistent sans arrêt. Il y a d'un côté une architecture philosophique qui est construite autour d'une certaine théorie de la science et notamment une théorie des mathématiques qui est très riche et très intéressante, mais dont un des effets collatéraux qui n'est pas sans importance pour la philosophie politique, c'est de permettre de comprendre que dans toute théorie scientifique, il y a d'une part une part de décision inéliminable qui exprime d'une certaine manière la souveraineté du théoricien, et que de l'autre, tout ce qui s'attache en général chez les physiciens à l'idée d'expérimentation est en fait à peu près vide, parce que aucune théorie suffisamment puissante et vraie n'a besoin de quoi que ce soit comme une expérimentation pour être vérifiée, et encore moins pour être falsifiée, pour parler comme Popper. Enfin, plus exactement, c'est une thèse qui est très ancienne chez Badiou, on le trouve dans un de ses premiers textes qui s'appelait « Le concept de modèle ». Dans le concept de modèle, Badiou essayait de montrer que la construction des modèles au sens de la théorie logique de Tarski et de quelques autres, c'est l'équivalent dans les mathématiques de l'expérimentation. Alors, ce qui veut dire que si vous avez l'équivalent dans la mathématique de l'expérimentation, ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'autre chose que... Vous n'avez pas besoin de sortir de l'a priori pour pouvoir vérifier ce que vous dites, ou vous n'avez pas besoin disons, d'une confrontation quelconque avec l'empirie, avec la réalité, etc. Ça peut se discuter jusqu'à un certain point, mais ça s'articule sur un discours politique dans lequel il y a force référence assez éloquente et puissante à un certain nombre d'expériences politiques, principalement la terreur pendant la Révolution française et le mouvement communiste dans son ensemble, qui sont présentés comme indissolublement liés à l'ensemble de la philosophie, et dont justement le dispositif philosophique déployé par ailleurs montre que aucun argument de type empirique, historique, etc. n'est en mesure de réfuter la validité de ces références. Donc ça se tient, si vous voulez, il y a une cohérence entre l'aspect spéculatif et l'aspect politique, et on peut donc aller de l'un à l'autre assez librement. Alors pour l'aspect politique, je citerai un texte légèrement antérieur à l'hypothèse communiste qui est tout à fait significatif de la manière de Badiou. C'est sa préface à un livre de son copain Zizek, qui était en fait lui-même une préface à la réédition de deux philosophiques de Mao Tse-Tung. Alors dans la préface de Badiou, vous pouvez lire ceci. S'agissant de figures comme Robespierre, Saint-Just, Babeuf, Planqui, Bakounine. Bon, jusqu'ici ça va. Marx, Engels, Lénine, Trotsky, Rosa Luxembourg, Staline, Mao Zedong, Zhou Enlai, Tito, Enver Hoxha, Guevara et quelques autres. Il est capital de ne rien céder au contexte de criminalisation et d'anecdotes ébouriffantes dans lesquelles la réaction tente depuis toujours de les enclore et de les annuler. En clair, nous devons reprendre à notre compte toutes les figures de la révolution radicale et violente depuis 1793, en laissant d'ailleurs de côté les exterminations réciproques auxquelles ces personnages ont pu se livrer. Et nous pouvons le faire parce que nous n'avons rien à prendre et rien à apprendre des prétendus enseignements qu'on pourrait tirer à partir de l'histoire ou de la vie ou de la biographie de ces personnages. Ces personnages sont d'ailleurs l'incarnation de l'éternité de l'idée communiste, éternité vivante, qui d'une certaine manière est apparue par exemple avec Spartacus, mais une fois qu'elle est là, ne disparaîtra pas. Alors qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire finalement que l'idée communiste n'est pas réfutée par le passé, puisqu'aucune idée n'est jamais réfutée par quoi que ce soit, et que il faut donc essayer de travailler à sa réactualisation, tout en se demandant quand même comment éviter un certain nombre d'inconvénients qui ont pu se produire dans le passé, puisque, après tout, dans certains cas, ça s'est traduit par un peu trop de violence quand même, et dans d'autres, ça s'est terminé par la fin de la Révolution et la restauration du capitalisme. Donc, il doit bien y avoir quelque chose qui ne va pas. Est-ce que tout ça débouche pour autant sur une politique de stratégie révolutionnaire de type de ce qu'était la Révolution autrefois? J'en suis pas sûr. Et pour ça, je vous renvoie au tout dernier livre de Badiou qui s'appelle « L'éloge de l'amour ». C'est un assez joli petit livre. C'est un débat avec Nicolas Truong, publié chez Flammarion, je crois, récemment. C'est un petit livre d'une centaine de pages, dans lequel, cette fois-ci, l'amour apparaît comme l'autre grande alternative à la société bourgeoise par rapport à la Révolution. Alors, ce qu'il s'agit de montrer étant essentiellement, bien entendu, que il y a quelque chose, je trouve, c'est quand même un sophisme, c'est que puisque l'amour ne se laisse pas enfermer dans le jeu du marché, ce qu'on peut trouver vrai et au demeurant souhaitable, dans ce cas-là, l'amour est le modèle de toute résistance au marché et donc le modèle de la le modèle, mais sur un autre plan, de ce que pourrait être une politique autre. Alors, la politique ne peut pas être quand même la transposition de l'amour, parce que, comme Badiou le dit honnêtement, pour lui, la politique présuppose la haine. Il n'y a pas de politique sans haine. Mais, par ailleurs, il ne faut rien exagérer, il ne faut pas tuer trop de monde. Mais il y a quand même quelque chose entre le communisme et l'amour, c'est que ce sont deux moyens de faire prévaloir ce qui est en commun contre l'égoïsme, d'aller au-delà du marché, de l'égoïsme, etc., etc. Donc finalement, on a en complément, pour ce platonicien, en complément du communisme du communisme de la République, quelque chose qui rappelle plutôt le banquet et qui vient agréablement compléter la construction d'ensemble. Alors, simplement, ce qui est intéressant, c'est qu'au même moment où Badiou commence à écrire ça, on voit que d'un côté, il est en train d'abandonner l'organisation politique à laquelle il a consacré pas mal de temps ces dernières années, et que dans son discours lui-même, il devient peu à peu, j'espère qu'il en est conscient et que ça ne lui fait pas trop de peine, il devient peu à peu démocrate. Lui qui me disait il y a 3 ans et demi, pour avoir le courage de ne pas être démocrate, je l'ai pris en flagrant délit de démocratie pendant plusieurs occasions. Alors par exemple, là, il y a une question sur laquelle il est démocrate, aussi démocrate qu'on peut l'être, c'est Israël. Israël ne sera jamais assez démocratique, doit respecter scrupuleusement toutes les procédures, etc. Quand vous faites la révolution, ça, vous n'êtes pas tenu par tout ça, mais si vous êtes l'État d'Israël, vous devez être impeccable. Mais pas seulement, dans une interview de Libération faite par un journaliste que j'aime beaucoup, qui est Eshiman, Eshiman semble avoir, c'est très bien d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il a de la sympathie à la fois pour moi et pour Badiou, qui pense qu'on est deux bons auteurs intéressants, et comme c'est un type bien, il arrive à faire dire aux gens des choses. Il a fait dire à Badiou dans une interview que Badiou était un grand partisan de l'état de droit. Ça m'a fait plaisir. Jusqu'ici, c'était un grand partisan de la révolution culturelle prolétarienne. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais ça montre, si vous voulez, que on a quelque chose aujourd'hui qui est curieux, parce que ça... on a des mouvements, des personnes, des pensées qui fixent des passions éventuellement violentes, mais en tout cas critiques, contre la société telle qu'elle est. Mais ça les fixe au sens chimique, mais le précipité chimique, ça n'est pas des mouvements révolutionnaires, c'est plutôt des positions de contestation interne, qui peuvent avoir d'ailleurs des effets réels, mais qui ne sont pas, me semble-t-il, vraiment des effets révolutionnaires. Alors, un mot pour finir sur les perspectives immédiatement politiques qui sont qu'on peut voir en France à partir de des dernières élections régionales, qui sont intéressantes parce que ces élections, si je peux me faire moi-même un compliment, comme je l'avais prévu, on vu le déclin du NPA de Besancenot. J'ai fait récemment une émission de radio avec Mélenchon, à qui j'ai dit, il a pris ce compliment moyennement bien, et je lui ai dit, vous avez au moins un mérite, vous allez nous débarrasser de Besancenot. Et ça n'a pas manqué. Alors, ça n'est pas forcément durable, mais c'est quand même intéressant parce que Besancenot, le NPA, la LCR, etc., s'était imposé à une époque où, comment dirais-je, on était encore dans l'idée que c'est justement parce que l'idée générale était celle de l'éternité du capitalisme et la nécessité de maintenir une critique radicale, cette critique s'exprimait par le vote pour une organisation dont la principale passion c'est d'être dans l'opposition radicale sans jamais participer à un gouvernement quelconque. À partir du moment où on a une crise économique avec des effets sociaux violents et un gouvernement qui est perçu comme, disons, un petit peu plus partisan de l'oligarchie économique que d'habitude, le réflexe des électeurs de gauche français, c'est de refaire l'union de la gauche pour une politique alternative. Et dans ce cas-là, les plus à gauche vont voter pour l'aile gauche de l'Union de la gauche, c'est-à-dire pour Mélenchon, et non pas pour ceux qui, dont le charme principal, c'est de ne jamais être au gouvernement. Voilà, bon, on s'arrête là. Si vous voulez.